Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahmane Dia en direct de Washington pour vous présenter cette édition de 17h30 temps universel. On est vendredi 30 août 2019 au sommaire. République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola franchit la barre des 2000 morts tandis qu'une autre personne est morte de la maladie en Ouganda. Plus de 150 migrants africains ont forcé la clôture pour entrer dans l'enclave espagnole de Ceuta, dans le nord du Maroc. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a mis en garde les députés contre toute tentative de bloquer le Brexit prévu le 31 octobre. En partie magazine, la Côte d'Ivoire rend hommage à Didier Arafat avant son inhumation prévue demain. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Bienvenue à tous en Ouganda, décès ce matin de la fillette congolaise de 9 ans qui a été contrôlée hier positive au virus Ebola. D'ailleurs, le secrétaire général de l'ONU commence demain une visite dans l'est de la RDC pour apporter son soutien aux équipes engagées dans la riposte Ebola. Claire Mouangebourg.
La fillette en quarantaine dans un centre de soins de Bouéra est morte ce matin, a déclaré Youssouf Bazeka, le directeur des services sanitaires du district de Kasese, dans le sud-ouest de l'Ouganda. Elle était arrivée mercredi au point de passage de Mpondwe à la frontière avec la RDC pour chercher une aide médicale à Bouéra, selon le ministère ougandais de la Santé. D'après les autorités ougandaises, le corps de la fillette va être rapatrié avec sa mère qui l'accompagnait. Par ailleurs, les autorités sanitaires de Kinshasa ont donné ce vendredi le dernier bilan de l'épidémie déclaré le 1er août 2018. Le cumul des cas est de 3004, dont 2899 confirmés et il y a eu 2006 décès. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est attendu dimanche à Beni, au deuxième jour de sa visite en RDC, qui commence demain samedi à Goma.
Au Niger, les autorités demandent aux habitants de la capitale Niamey de se préparer contre des inondations après l'importante crue du fleuve Niger. Le gouverneur de Niamey, Hassan Issaka Karanta, a expliqué qu'il y avait des risques d'inondations en raison d'importantes pluies qui s'abattent sur l'ouest du pays et d'importantes quantités d'eau drainées par les affluents du fleuve. La quasi-totalité du 1,5 million d'habitants de Niamey vivent sur les rives du fleuve. Les crues du fleuve sont souvent responsables de dizaines de morts et d'importants dégâts. Près de 150 Nigériens ont été rapatriés hier soir par avion de Libye, où ils étaient détenus dans des centres de rétention, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Parmi ces migrants rapatriés, 4 se trouvaient dans un centre de rétention bombardé le 2 juillet à côté de Tripoli. Ces nouveaux arrivants portent à 1 000 000 le nombre de Nigériens rapatriés depuis le mois de janvier par avion, alors qu'ils étaient détenus dans des centres de rétention en Libye, selon des chiffres de l'OIM. Par ailleurs, un groupe de 155 migrants africains est parvenu à pénétrer ce vendredi dans l'enclave espagnole de Ceuta, dans le nord du Maroc. Ils ont franchi la haute barrière hérissée de barbelés. Le point avec Ekiabadou.
Ils ont franchi la clôture à l'aube à la faveur du brouillard, selon le porte-parole de la préfecture de Ceuta. Certains ont escaladé, d'autres ont cassé l'une de ces portes pour passer. 12 gardes civils qui tentaient de les intercepter ont été légèrement blessés à coups de pierre et de bâtons. Selon la préfecture de Ceuta, 16 migrants ont reçu des soins pour des blessures et coupures et que les 155 migrants seront tous renvoyés vers le Maroc. Depuis le début de l'année, 3427 migrants sont parvenus à entrer, soit 18% de moins qu'en 2018, selon le dernier bilan du ministère espagnol de l'Intérieur. Ceuta et Melilla, deux enclaves espagnoles au Maroc, sont les seules frontières terrestres entre l'Union européenne et le continent africain. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, l'Espagne était devenue en 2018 la première porte d'entrée de l'immigration clandestine en Europe, mais a été dépassée cette année par la Grèce.
Ce vendredi encore, des manifestations ont eu lieu à Alger alors que l'impasse perdure entre le pouvoir et les contestataires. Le pouvoir intérimaire incarné par le haut commandement militaire refuse toute autre solution de sortie de crise qu'un scrutin présidentiel pour élire son successeur. Le successeur de Bouteflika donc, mais le Hirak, le mouvement de contestation né après la démission du président Bouteflika en février, rejette lui tout scrutin organisé par ceux ayant soutenu le chef de l'État déchu. La justice zambienne a ordonné ce vendredi la libération contre le paiement d'une caution de 3 500 $ d'un des principaux opposants arrêtés il y a 2 jours. Chisimba Kambwili, chef du Congrès national démocratique, est accusé d'avoir diffamé le chef de l'État Edgar Mulungu. Monsieur Kambwili, qui sera jugé le 30 septembre, a plaidé non coupable. L'accusation a maintenu que l'accusé avait voulu ridiculiser le chef de l'État et susciter la haine contre lui.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson a mis en garde les députés contre un blocage du Brexit prévu le 31 octobre, après avoir remporté une première manche dans la bataille judiciaire contre sa décision de suspendre le Parlement pour 5 semaines. Nathalie Barche.
Les députés ont promis de mettre en œuvre le Brexit et j'espère qu'ils le feront, a déclaré Boris Johnson, estimant que dans le cas contraire, la confiance du peuple dans la politique va s'éroder gravement. Le gouvernement britannique fait face à plusieurs actions en justice visant à empêcher la suspension du Parlement qu'il a prévu de la deuxième semaine de septembre jusqu'au 14 octobre, soit 2 semaines avant le Brexit le 31 octobre. Boris Johnson est soupçonné de vouloir empêcher un blocage du Brexit sans accord que son gouvernement souhaite mettre en œuvre s'il ne trouve pas de compromis avec l'Union européenne sur les conditions de sortie. Ce vendredi, la plus haute instance civile d'Écosse a rejeté une demande de 74 parlementaires pro-européens de contrer en urgence la suspension. Ce rejet doit être confirmé en audience le 3 septembre.
L'armée russe a annoncé qu'un cessez-le-feu unilatéral concernant uniquement l'armée syrienne entrera en vigueur demain matin dans la région d'Idleb. De violents combats se déroulent dans cette région du nord-ouest qui abrite une des dernières poches de résistance au régime de Damas. Après plusieurs mois d'intenses bombardements par les avions russes et syriennes, les forces de Bachar el-Assad ont entamé le 8 août une offensive au sol contre les rebelles, dont des djihadistes d'une ex-branche syrienne d'Al-Qaïda. Le gouvernement irakien se prépare à déposer une plainte devant les Nations Unies après qu'une enquête a conclu à la responsabilité d'Israël dans de récentes attaques sur des bases d'une force paramilitaire. Le Hachal-Shabi, une alliance de groupes armés favorables à l'Iran, qui dispose aussi d'un bloc au Parlement irakien, a accusé les États-Unis et Israël de récentes explosions et d'envoi de drones sur ces bases. Des enquêtes gouvernementales ont conclu que le responsable de certaines de ces attaques est Israël, a indiqué Ahmed al-Assadi, le responsable du Hached et porte-parole du mouvement Fatah. Les Émirats arabes unis et le pouvoir au Yémen s'accusent mutuellement au sujet des combats entre les séparatistes sudistes et l'armée à Aden. Les Émirats sont l'un des piliers d'une coalition militaire commandée par l'Arabie saoudite, soutenant militairement depuis 2015 le président et le gouvernement du Yémen face aux Houthis qui se sont emparés de vastes régions du nord du pays, y compris la capitale Sanaa. Pour finir, et ça n'arrive qu'aux États-Unis, le lancement d'un nouveau sandwich au poulet par la chaîne de restauration rapide Popeyes a eu un tel succès qu'il est rapidement tombé en rupture de stock, provoquant la colère de clients. John Lyndon.
Fondé en 1972 à la Nouvelle-Orléans, Popeyes est connu pour son poulet frit arrosé d'épices de Louisiane. Le 12 août, la chaîne rachetée par Burger King a présenté un nouveau produit. C'est un blanc de poulet frit dans du pain brioché au beurre, servi avec une mayonnaise épicée et une tranche de cornichon au vinaigre. Le lancement est soutenu par une vaste campagne sur les réseaux sociaux et d'une vidéo hilarante d'un comédien qui devient vite viral sur le net. Conséquence, les queues s'allongent devant les Popeyes du pays. Une municipalité du Nevada a même ordonné la fermeture d'un restaurant car la file d'attente gênait la circulation. Le succès est tel que certains restaurants ont commencé à afficher en vitrine plus de 108 chaupoulets. Le couperet tombe mardi sur le compte Twitter Popeyes Chicken, s'est écrit « Nous adorons quand vous adorez le 108. Malheureusement, nous sommes en rupture de stock. » C'est le mot de trop qui déchaîne la fureur des clients qui dénoncent une pénurie organisée. Même un habitant du Tennessee a porté plainte pour fausse publicité, pratique commerciale déloyale et pour lui avoir fait perdre du temps infini à chercher son sandwich.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco présentée par Nanit Talani.
Au Botswana, Chumba Energy a formé une joint venture avec deux sociétés chinoises pour la construction d'une centrale de conversion du charbon en liquide d'un coût de 1,5 à 2 milliards de dollars. L'usine de transformation devrait produire par jour 20 000 barils de diesel et 5 000 barils d'essence. La centrale va nécessiter 3,2 millions de tonnes de charbon par an qui proviendraient de la mine de Chumba Mabesekwa. La centrale de Mariagleta est entrée en service au Bénin. D'une capacité de 127 MW, elle est implantée dans la localité d'Abomey-Calavi à 10 km de Cotonou. Les travaux ont duré 18 mois et ont coûté 180 millions de dollars. Avec l'inauguration de cette centrale, la capacité électrique du Bénin passe à 448 MW. Le projet a bénéficié de l'appui de plusieurs banques régionales qui lui ont fourni des prêts remboursables sur plus de 10 ans. Pour terminer, les métaux précieux ont fortement progressé sur la semaine, notamment l'argent et le platine, tandis que l'or a atteint son plus haut niveau en 6 ans. Lundi, il est monté jusqu'à 1555,28 $ l'once, du jamais vu depuis 2013. L'argent, de son côté, a atteint jeudi 18,66 $ l'once. Le platine a gagné 6,6% depuis mardi, atteignant 935,68 $ l'once. Enfin, le palladium est monté vendredi à son plus haut niveau depuis un mois à 1507,11 $ l'once.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Les 12e Jeux africains s'achèvent demain.
Oui, c'est la course aux dernières médailles, dont celle en football. Le Nigeria a fait son entrée sur le podium du classement général, mais l'Égypte mène toujours la course en tête des pays les plus titrés. On fait le point avec Kader Traoré sur place à Rabat.
Les dernières médailles à glaner sont entre autres le football, dont la finale homme se joue ce vendredi soir entre le Burkina Faso et le Nigeria. Mais déjà hier jeudi, le Burkina a une fois de plus gravi l'échelon de la victoire. En heptathlon discipline combinée de cette épreuve, Marthe Kuala a remporté le concours avec 5866 points. Elle a devancé la Nigériane Ruth Oluwakemi qui a totalisé 5683 points et l'Égyptienne Oda Agras créditée de 5305 points. Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance pour la Burkinabé, surtout avec l'enchaînement des épreuves.
Ça n'a pas été du tout facile, parce que j'ai fait la demi-finale des 100 mètres air, et juste le lendemain, j'ai commencé avec l'heptathlon, et le soir, encore un 100 mètres air, et donc c'était très difficile. Et aussi cette année, j'ai eu pas mal de problèmes au niveau de la cheville, donc voilà, je suis très satisfaite. L'objectif, c'était ça, c'était pas la performance, quoi, c'était la médaille.
Au classement général, le Nigeria fait son entrée dans le top 3. Avec 103 médailles, dont 40 en or, il occupe la deuxième place. Le premier rang est toujours détenu par l'Égypte qui compte à ce jour 209 médailles, dont 79 en or, 87 en argent et 63 en bronze. Kader Traoré, à Rabat, pour VOA Afrique.
Arsenal-Francfort en affiche de la Ligue Europa.
Les Bleus n'ont pas à trembler après le tirage au sort des groupes de la Ligue Europa. Les Anglais d'Arsenal auront moins le plaisir de croiser la route de l'Eintracht Francfort et son public bouillant. Les Belges du Standard de Liège et les Portugais du Vitória Guimarães complètent ce groupe F. Manchester United, vainqueur de la C3 en 2017, devra lui regarder vers l'Est, opposé aux Kazakhs de Karabakh, aux Serbes du Partizan Belgrade et aux Néerlandais de l'Alkmaar. La compétition débute le jeudi 19 septembre.
Début demain du mondial de basketball en Chine.
32 pays, dont le tenant du titre américain, sont en lice pour la course au sacre au soir du 15 septembre. Parmi eux, 5 nations africaines. Les hostilités commencent demain avec l'opposition Angola-Serbie, puis le Nigeria fera face à la Russie, la Côte d'Ivoire à l'hôte chinois. Mission compliquée pour la Tunisie devant le géant espagnol. Dimanche, le Sénégal jouera face à la Lituanie.
Merci beaucoup, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Diab, toujours en votre compagnie. On passe maintenant au dossier du jour. Au Sénégal, la mort mardi de 2 détenus dans la prison de Rebeuf suscite de vives réactions. 2 jeunes de 18 et 19 ans sont décédés après une électrocution. Ce drame vient relancer le débat sur les conditions de détention inhumaines des prisonniers sénégalais. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Les prisons sénégalaises sont pleines à craquer et les détenus sont dans des conditions extrêmement difficiles. Le constat est du président de l'association des anciens détenus, Ibrahima Sall, qui s'offusque de cette situation.
Le Sénégal reste à la traîne en Afrique de l'Ouest. Le phénomène de la surpopulation carcérale prend une dimension alarmante car aujourd'hui, seuls 4 pénitentiaires sur 37 prisons du Sénégal n'ont pas encore dépassé leur capacité d'accueil. Mais on constate au Sénégal que les gens vont trop facilement en prison, avec la désinvolture par laquelle les autorités judiciaires les envoient facilement en prison. Vous savez que nous avons 37 établissements pénitentiaires du Sénégal qui comptent un effectif carcéral de plus de 11 000 détenus dans des conditions de détention extrêmement ignobles, cruelles et inhumaines.
Les prisonniers sénégalais sont dans des conditions inhumaines, d'après Tierno Alioudia, qui a passé 7 ans de sa vie derrière les barreaux de la très surpeuplée prison de Rebeuf.
Les conditions étaient très difficiles. La preuve, lorsque le député Mustapha Cissélo était venu nous rendre visite, il avait même déclaré que ses propres moutons ne doivent pas vivre ainsi. L'alimentation, c'était très compliqué, on mangeait à peine et il y avait 300 personnes dans une chambre qui doit en principe contenir que 100 et une seule toilette pour tout le monde. C'est pourquoi on se bat pour changer la situation.
L'État du Sénégal doit réagir et construire de nouvelles prisons pour garantir aux détenus des conditions de vie plus dignes. C'est l'avis d'Alassane Seck, secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise des droits humains.
Toutes les prisons étaient arrivées à saturation. Rebeuf a plus de 90 ans. La prison de Saint-Louis, elle a plus de 150 ans. Et ce sont les deux seules prisons qui ont été construites à cet effet. Donc aujourd'hui, avec ce qui se passe à Rebeuf, on nous a dit qu'il y avait 2700 personnes. C'est pas loin de ça. Pour une population qui était prévue de 800 personnes, 800 à 2700, c'est presque 4 fois plus. Donc je pense que c'est l'occasion que enfin le gouvernement qui avait voulu commencer en 2015 à construire la prison de Sidi Kotar, qui enfin puisse réaliser cet ouvrage.
Au-delà de la construction de nouvelles prisons et de l'amélioration des conditions de détention des prisonniers, il faut des réformes. Pape Sène, président du comité sénégalais des droits de l'homme, estime que les peines alternatives sont les meilleurs moyens de désengorger les prisons au Sénégal.
Aujourd'hui dans notre code pénal, nous avons la substitution des peines d'emprisonnement ferme pour certaines infractions dont les peines d'emprisonnement ne sont pas de lourdes peines, donc des peines de substitution par rapport à des travaux d'intérêt public. Je crois que ça également, ça permet de désengorger donc nos prisons. Il y a également d'autres mécanismes qui existent, tels que la libération conditionnelle, même la grâce qui est évoquée ces temps-ci, constitue également un moyen de pouvoir un peu désengorger donc nos prisons.
Au Sénégal, les détenus vivent dans des conditions difficiles et inhumaines à cause du surpeuplement et de la vétusté des prisons. Une situation qui occasionne fréquemment des drames. Le plus récent d'entre eux est la mort par électrocution de 2 jeunes à la prison de Rebeuf à Dakar. Un drame qui a poussé les anciens détenus et les organisations des droits de l'homme à demander plus de considération pour les prisonniers. À Dakar, Sidiane Abagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Le Nigeria génère quelque 32 millions de tonnes de déchets par an, dont 2,5 millions de tonnes de déchets plastiques. En 2009, le gouvernement a attribué des contrats pour l'achat et le recyclage de déchets, mais ce projet a fait long feu. Timothy Obiezu à Abuja, a visité une communauté qui gagne sa vie grâce au recyclage avec un impact évident sur l'environnement. Son reportage et puis avec le récit de Lionel Gaïma.
Une autre journée dans cette décharge, c'est une autre chance pour Aoud Suleiman de joindre le debout. Il a 30 ans. Depuis 6 ans, il vient chaque jour fouiller ce dépotoir à la recherche de matières recyclables. Lorsqu'il a fini de trier le plastique et l'aluminium, il amène ses lots au traitement.
Ce travail me rapporte de l'argent et c'est pourquoi je l'ai fait avec passion. C'est grâce à ce travail que j'ai pu me marier. La vie a été facile pour moi.
Ici, les déchets sont achetés pour peu et transformés en pots, fourneaux et ustensiles de cuisine qui sont revendus plus cher. Mahmoud Ahmed, 50 ans, recycle l'aluminium depuis plus de 25 ans.
J'ai commencé ce travail à Lagos avant de venir ici. Ce que je tire de la vente de mes pots me permet de payer les frais de scolarité de mes 7 enfants.
Pour ces personnes vivant de recyclage, ce n'est qu'un moyen de survie. Les experts estiment que c'est plus que cela. Le Nigeria est l'un des plus gros pourvoyeurs de déchets solides du continent, avec près de 32 millions de tonnes par an. Marianne Asseyenku, experte en recyclage.
Presque tous les pays du monde ont des problèmes de gestion des déchets. Donc le Nigeria n'est pas un cas particulier. Le problème fondamental que nous avons, c'est qu'en 2009, le gouvernement a attribué des contrats pour l'achat et l'installation de points de recyclage dans 26 villes du Nigeria, y compris la capitale.
Les objectifs étaient ambitieux, mais n'ont jamais été atteints.
Il y a également le concept du zéro déchet. En tant qu'individu, nous pouvons planifier notre vie pour avoir le moins de déchets possible. Par exemple, le plastique est aujourd'hui un problème majeur au niveau mondial. Il y a donc des concepts pour ne plus utiliser le plastique, avoir des alternatives.
La gestion des déchets est un défi majeur pour les zones urbaines et rurales du Nigeria. La population nigériane, déjà la plus importante du continent, devrait doubler d'ici 2050, ce qui va signifier plus de déchets encore. En moins d'une nette amélioration, les points de recyclage locaux ne seront pas à mesure de faire face aux énormes besoins du pays.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique a pris fin aujourd'hui à Yokohama, au Japon. Shinichi Kitoaka, président de la JICA, l'agence japonaise de coopération internationale, a rappelé l'importance de contribuer au développement des capacités de sorte que le pays bénéficiaire puisse se développer de façon autonome. Pour en savoir plus, Claire Morin-Jebourg a joint le directeur général adjoint du département du développement humain à la JICA, Hiromichi Morishita.
Dans le plan d'action adopté au cours de JICA 7, il y a trois axes principaux. Premier concerne l'accélération de la transformation économique et l'amélioration de l'environnement des affaires par l'innovation et la participation du secteur privé. Deuxième porte sur la consolidation d'une société durable et résiliente. Et troisième et dernière, l'enforcement de la paix et de la stabilité. Et donc, la deuxième axe concerne directement l'éducation de base en Afrique. C'est donc le volet de l'éducation vise surtout à fournir l'éducation de qualité.
Quel est le bilan que vous tirez des précédents investissements que le Japon a fait?
Depuis le premier TICAD qui s'est tenu en 1993, c'est la 7e TICAD. Durant la période de TICAD 5 à 6, nous avons formé 260 000 enseignants et 67 000 écoles ont fait également l'objet de l'amélioration de la gestion scolaire avec la participation communautaire qui a permis d'améliorer l'environnement d'apprentissage et aussi la construction de plus de 4 000 salles de classe pour accueillir plus de 340 000 enfants. À cela s'ajoute au moins 3 millions d'enfants qui seront bénéficiaires de l'éducation de qualité pour la période de la TICAD 7.
Quand vous dites éducation de qualité, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que ça veut dire concrètement en formation?
Pour l'éducation de qualité, et nous allons mettre l'accent surtout sur l'enseignement des sciences et des mathématiques, et la gestion scolaire avec la participation communautaire, et développement de petite enfance et l'éducation des filles. Ce sont des volets prioritaires dans le cadre de l'éducation de qualité.
Et avez-vous une attention particulière portée au pays du Sahel?
Au cours de la TICAD 7, la sécurité également fait l'objet de discussions. Donc la région du Sahel est une des régions prioritaires. Donc la JICA mettra en œuvre certains programmes dans cette région, comme Burkina Faso, Mali, Niger, y compris le Sénégal. Dans ces pays, la JICA met l'accent surtout sur l'implication des communautés et pour la gestion scolaire. Depuis 2004, la JICA effectue un programme l'école pour tous au Niger. Avec la participation des communautaires, le taux d'accès à l'école primaire ont été bien améliorés grâce aux contributions des communautés.
C'était le directeur général adjoint du département du développement humain à la JICA, Hiromichi Morishita.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique et VOA Afrique. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Des milliers de personnes rendent un dernier hommage à DJ Arafat, le roi du coupé décalé, mort dans un accident au début de ce mois. Un grand concert a eu lieu dans l'après-midi. DJ Arafat sera inhumé demain. Reportage Lamine Traoré.
Au stade Félix Houphouët-Boigny, ils sont des milliers à prendre part à ces obsèques. Même si le stade n'est pas plein, c'est une forte mobilisation. Les fans de DJ Arafat, les Chinois sont dans la place. Le drapeau chinois aussi, des inconditionnels du musicien.
Quand tu es là, tu es prêt pour Daïti.
Oui, on dit les mots, mais c'est rien. On est toujours ensemble. Je vois la musique de Ghana un peu bizarre, mais ça va aller.
Cette dame, Pauline Ouédraogo, a quitté le Burkina Faso pour se retrouver ici au stade Félix Houphouët-Boigny. Arafat, c'était son champion.
Vraiment, Arafat, il a été vraiment pour moi un artiste incontournable. Raison pour laquelle je me suis déplacé pour lui, pour venir lui rendre un dernier hommage. Il représente aujourd'hui le Burkina Faso Félicia, pour rendre hommage à notre visé, mon champion.
Salso est manager d'artiste. La disparition de Arafat est une perte.
On est triste, la Côte d'Ivoire est triste, parce que ce monsieur c'est un monument. Voilà, tout le monde est triste aujourd'hui là. Le stade est rempli. Voilà, il n'a jamais fait de concert au stade, ça nous fait mal.
Chico Lacoste est membre du comité d'organisation.
Et vous voyez le stade est plein. Il y a tous les fans d'Arafat sont là et des gens, les Chinois comme on dit, ils sont là. Et d'autres personnes qui effectuent les déplacements, les Guinéens qui portaient Arafat à leur cœur. Arafat nous a quittés aujourd'hui, ça fait mal, c'est très dur. Mais nous devons tenir. Et je demande à la jeunesse, cette jeunesse-là qui le suivait vraiment, de faire un plan de Dieu. Donc, qu'ils acceptent cela, c'est la volonté de Dieu.
Plusieurs artistes vont se succéder sur le podium tard la nuit. Demain, Arafat sera conduit à sa dernière demeure, au cimetière de Williamsville.
des membres du gouvernement ivoirien, avec en tête Ahmed Bakayoko, qui était proche du musicien, prennent part à ses obsèques. Lamine Traoré, Abidjan, VOA Afrique.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Lionel Gaïma, la console Nelson Lopes, présentation Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
VOA Afrique, les